Christophe Galfard, comment vous comprenez, vous, cet engouement mondial pour ce best-seller hein, sorti en 88, Une brève histoire du temps, ouvrage, premier ouvrage de vulgarisation de Stephen Hawking?
Peut-être parce qu'il est arrivé au bon moment, mais peut-être que pour remettre cette idée de génie, etc., on s'en fiche bien pas mal finalement si quelqu'un est un génie ou non. Mais en tout cas, la particularité de Stephen, Aurélien une fois de plus parlait d'oracle à l'instant, pour le grand public, il se trouve qu'il faisait aussi office d'oracle auprès des scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire que sa parole était toujours un petit peu mystérieuse. Et souvent au bon endroit. Les questions qu'il posait étaient systématiquement à l'endroit où la théorie allait poser problème. Et du coup, tenter de comprendre ce que Stephen disait voulait dire tenter de comprendre quels étaient les problèmes de la physique actuelle. Pareil, pour en revenir au trou noir et à ce que Nathalie Deruel disait tout à l'heure, il nous a offert, grâce à son étude des trous noirs, une sorte de serrure, un trou de serrure qui nous permet d'entreapercevoir une théorie qu'on n'a pas encore, une théorie pour laquelle on n'a pas la clé. Cette théorie, c'est une théorie qui unifierait le très grand et le très petit, la physique quantique et la gravitation, qui nous permettrait de comprendre l'évolution complète des trous noirs et en particulier, du coup, potentiellement, la naissance de notre univers. On se doute qu'une telle théorie existe, on ne l'a pas forcément trouvée, on a quelques candidats, on ne sait même pas si ces candidats sont les bons ou pas, on n'en sait rien. Ce qu'on appelle théorie des cordes et autres, gravitation quantique à boucle, etc. Mais il y en a encore 3 ou 4 autres que je connaisse en tout cas. Et Stephen nous a montré une formule. Ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie, c'est cette température de Hawking. Dans cette formule, il y a un h-bar, c'est une constante qui correspond à la physique quantique. Il y a un g qui correspond à la gravitation. Il y a un c qui est la vitesse de la lumière. Il y a un k qui est de la thermodynamique. Il a unifié en une formule toutes les théories physiques connues. Ça, c'est un trou de serrure. La théorie existe probablement. On ne l'a pas encore trouvée. Et quelle qu'elle soit, elle devrait être la clé qui nous redonnera cette formule-là.
Et un message de Pascal sur franceinter.fr. Après avoir lu justement Une brève histoire du temps, je retiendrai une phrase fondamentale pour la science, sa remarque concernant une réflexion du pape qui lui demandait de ne pas remonter au-delà de l'origine de l'univers. La peur que l'on découvre l'absence de Dieu était évidente. Nathalie Deruel, un petit mot là-dessus?
Sur Stephen Hawking et le Vatican, oui, il y a été invité plusieurs fois, comme beaucoup de cosmologues. Le plus grand des cosmologues, d'ailleurs, étant l'abbé Lemaître, qui avait inventé la notion de Big Bang, c'est-à-dire cette singularité dont parlait Aurélien Barreau tout à l'heure, au-delà de laquelle on pensait ne pas pouvoir aller. Stephen, en rendant un temps imaginaire, a émis cette idée dont vous parliez tout à l'heure, que en fait l'univers n'avait plus de singularité et que donc il n'était plus question d'aller au-delà puisqu'il n'y en avait plus.
Marie-Odile Monchécourt, en tant que journaliste, jeune journaliste, au moment de la sortie de ce livre, vous rencontrez Stephen Hawking. Dans la vie d'un journaliste, ça ne s'oublie pas ?
Oh ben non, c'est impossible d'oublier une rencontre avec Stephen Hawking.
C'était où, Marie-Odile Monchécourt ? En 89, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'était à l'occasion d'un service de presse, quoi, pour la sortie de son premier livre. Il était déjà très malade, donc il était dans son fauteuil roulant. Je lui ai posé une question. Je me souviens plus de laquelle. Mais en tout cas, j'ai bien attendu. Nous avons bien attendu dans un silence absolument total. Peut-être pendant 3 minutes, sa réponse qu'il pouvait formuler à l'aide de ses deux doigts qui bougeait avec une petite machine, et j'entends au bout de 2-3 minutes « Yes !» Alors moi, je voudrais quand même poser la question à nos scientifiques qui sont là. Ce qui me fascine chez Stephen Hawking, au-delà de toutes ces connaissances scientifiques à laquelle moi j'accède comme une journaliste, c'est-à-dire avec la curiosité sans le savoir, c'est quand même... Est-ce que c'est pas sa maladie qui l'a conduit à se poser toutes ces questions essentielles? D'où on vient? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi j'existe? C'était ça les questions essentielles qui ont poussé Stephen Hawking à aller aussi loin en physique, non?
Christophe Galfard.
Alors, je pense que tout le monde se les pose, ces questions.
Ça n'a absolument rien à voir avec sa maladie. Mais lui a osé les poser.
Et je pense qu'il a commencé à réfléchir à ces questions-là bien avant d'être malade. Et je pense que s'il n'avait pas eu cette maladie, il nous aurait fait gagner peut-être un siècle ou deux de réflexion sur notre monde à nous.
Nathalie Deruel.
Vous avez l'air de penser que s'il n'avait pas été malade, il aurait fait des choses encore plus profondes et plus grandes. je ne crois pas qu'il faille considérer sa maladie épouvantable. Qui a eu une maladie aussi épouvantable que la sienne? Je pense que lui-même ne voulait pas du tout considérer cette maladie comme un handicap qui l'empêchait de vivre, de travailler et de communiquer. Et c'est un aspect de la personnalité de Hawking qui m'a toujours émue. C'est cette force, ce courage d'ignorer sa maladie. Et il a donné ce qu'il a donné, ce qui est immense. Je pense que s'il avait été comme vous et moi, il aurait donné des choses peut-être différentes, mais tout aussi grandes.
Oui, il y a cette citation justement dans ce livre, « La brève histoire de ma vie ». Il dit « Au fond, j'aurais une belle vie. Je crois que les personnes handicapées devraient se concentrer sur les choses que leur handicap ne les empêche pas de faire, sans regretter ce dont elles sont incapables. Dans mon cas, j'ai réussi à faire la plupart des choses que je souhaitais. » Voilà. Et il a tout fait. Et son esprit était entièrement libre, Nathalie de Ruel. Hein.
Tout à fait. Alors, il y avait des problèmes de communication réels. Quand je l'ai rencontré là, il y a 43 ans, donc, il pouvait encore un peu marcher. Mais c'était pour moi, surtout que je n'étais pas de langue anglaise, très difficile de le comprendre. Donc, communiquer avec lui était difficile. Mais ça n'empêchait en rien de dire « yes ! » au bon moment, ouais. Même s'il fallait attendre.
Ouais. Allez, Sharon Jones, The Dape Kings, on les écoute et puis juste après, on poursuit cet hommage à Stephen Hawking avec d'autres voix, celles de Cédric Villani, Hubert Reeves, Thibaut Damour, et vous restez tous avec nous et vous poursuivez bien sûr vos messages sur le site de La Tête au Carré, cette émission spéciale avec Daniel Chievet.